Nous allons tout de suite entrer dans la seconde grande partie de la métaphysique, la recherche de ce que représente la fin de l'être. Après l'interrogation du Tiesti, on voit que l'interrogation de « en quoi est l'être ?» n'a pas de réponse possible, et que l'interrogation « d'où vient l'être ?» n'a pas non plus de réponse. Il faut essayer de saisir ça. Il faut essayer de le comprendre. Je ne reviens pas dessus, parce que je l'ai déjà fait, mais je demande cet effort. Il faut essayer de comprendre comment, de fait, ces deux interrogations « en quoi et d'où vient l'être ?» n'ont pas de réponse. C'est intéressant pour la structure des diverses causalités, puisque aux interrogations correspondent les causalités. Il faut comprendre qu'il n'y a que deux causalités qui sont immédiatement reliées à l'être, et qu'il y a deux autres causalités qui sont reliées au devenir. Vous voyez, c'est toujours intéressant pour saisir un peu ce que représentent les structures profondes de ce que c'est que la causalité. Du reste, c'est par là qu'on comprend mieux ce que c'est que la causalité. C'est pas commode de comprendre ce que c'est que la causalité, hein. De comprendre ce que représente le principe d'où les autres choses viennent. Alors vous comprenez que la causalité, selon la forme qui correspond au Tiesti, donne la structure immanente de l'être, c'est l'ousia. L'ousia nous donne la structure immanente de l'être. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit de la fin et quand il s'agit de l'acte, ce que nous allons essayer de voir maintenant, il ne s'agit plus au sens strict d'une structure, il s'agit de quelque chose d'autre, qui est très difficile à préciser. Alors disons pour le moment quelque chose d'autre, et puis vous essayerez de comprendre qu'est-ce que c'est que l'acte. À cette interrogation donc, quel est l'état de perfection de l'être ? Je vous avais dit qu'il fallait, pour bien saisir cela, voir que nous avions deux manières de saisir l'acte, deux manières de saisir la fin. L'une du côté de l'activité artistique, la fin résultat, et l'autre du côté éthique, le bien. Je crois que c'est très important de bien saisir ces deux premiers moments où nous saisissons la finalité. Parce que ce sont les deux premiers plis de la vie de l'intelligence. C'est vraiment du côté de l'activité artistique où nous saisissons comment l'œuvre finalise, mais elle est en même temps un résultat. Donc, elle n'est pas entièrement extrinsèque. Il y a quelque chose d'immanent de l'œuvre par rapport à l'artiste, puisqu'il y a une continuité par le point de vue de la forme. L'artiste transforme la matière en lui donnant une certaine forme nouvelle. Et en lui donnant cette forme nouvelle, il la retrouve dans l'œuvre. Et cette forme, elle vient de l'artiste. L'idéa vient de l'artiste. Donc il y a une continuité. Et en même temps, il y a quelque chose d'autre. Donc nous voyons bien comment l'œuvre est à la fois le résultat. Il est le résultat parce que la forme de l'œuvre vient de l'artiste. Et là, il y a une continuité, il y a quelque chose d'immanent. Ce qui fait que la finalité n'est pas toujours totalement extrinsèque. Et puis, il y a le point de vue de la matière en laquelle s'incarne la forme pour réaliser l'œuvre. Cette matière, elle est autre. Elle n'est pas transcendante, mais elle est autre. Elle est quelque chose que l'artiste ne connaît pas. Il la connaît partiellement en la transformant, et dans la mesure où il la transforme, il la connaît. Mais dans la mesure où il ne la transforme pas, il ne la connaît pas. Et donc, ce qui reste de matière dans l'œuvre lui échappe. Forcément, puisque l'œuvre transformée n'est plus la matière. Et ce qui reste de la matière lui échappe. Donc il y a toujours quelque chose qui échappe à l'artiste dans l'œuvre. Il y a toujours quelque chose qu'il transcende d'une certaine manière, mais transcendé d'une manière très particulière, c'est-à-dire ce qu'il n'est pas arrivé à dompter absolument. Vous transcendez quelqu'un quand vous êtes indomptable. C'est une manière de transcender. Et la matière a toujours quelque chose d'indomptable par rapport à l'activité artistique, et par là, elle transcende l'activité artistique. Elle dépasse l'activité artistique. Elle est autre. Et puis alors, dans la finalité saisie du côté éthique, le bien, lui, est totalement transcendant. Il est d'abord transcendant, et puis il a une certaine immanence après. Vous voyez que c'est très curieux de voir que des deux côtés, il y a une immanence et une transcendance. Et donc, le point de vue de la finalité se saisit dans une espèce de relation double, transcendance et immanence, au point de départ. Hein. Je suis devant la première saisie de la finalité. C'est très important pour nous, parce que autrement, on risque toujours de comprendre la finalité d'une façon un tout petit peu trop abstraite, vous voyez. Et là, ça ne va plus du tout. Il faut saisir la finalité à partir de l'œuvre artistique, et il faut tout le temps revenir à cela. Et il faut saisir la finalité à partir d'un certain amour, à l'égard d'un bien qui est mon bien spirituel. Et comprendre qu'il y a à l'égard de l'œuvre, il y a à l'égard du bien, comme une double relation d'immanence et de transcendance. Ces deux relations sont tout à fait différentes. La relation de l'œuvre à l'égard de l'artiste et la relation du bien à l'égard de celui qui aime, ce sont tout à fait différentes. Et donc, toutes les deux sont pourtant des finalités qui ne sont pas nécessairement parfaites et qui impliquent des éléments étrangers, mais qui sont quand même des finalités. On peut se poser la question, quelle est la finalité de l'être ? Au-delà de ces deux opérations, je peux me poser quelle est la finalité du côté de la nature, quelle est la finalité du côté du vivant, et quelle est la finalité du côté de l'être. Mais c'est pour que vous compreniez qu'il y a une question qui se pose, hein, et une question très difficile. C'est sûrement, au point de vue métaphysique, la question la plus difficile. Sûrement. Je crois que c'est là où, de fait, on voit l'apport très extraordinaire de la philosophie aristotélicienne, parce que ça, c'est l'originalité d'Aristote. L'ousia, Platon en avait parlé, donc on ne peut pas dire que c'est l'originalité d'Aristote. Tandis que l'acte, c'est l'originalité d'Aristote. Ça, historiquement, on est bien obligé de le reconnaître. Et Heidegger le reconnaît. Hein. Heidegger reconnaît, pas à la manière dont nous allons parler de l'acte dans Aristote, mais reconnaît que l'entelecheia est quand même quelque chose de très très grand. C'est pour ça qu'il a un tel amour à l'égard du livre Theta des métaphysiques. Et que pour lui, on ne peut vraiment pas être un vrai philosophe si on n'a pas lu attentivement le livre Theta et si on ne l'a pas analysé. Et lu en grec, n'est-ce pas ? C'est sûr. Autrement, on risque de passer à côté. Donc, c'est intéressant à voir qu'il y a quand même là un problème très important à saisir. Alors, si vous voulez, très rapidement, une petite topique historique, vous pourrez, ceux qui veulent la compléter, regarderont dans le livre sur l'être à partir de la page 324, et puis faites-la vous-même. Profitez des études que vous faites sur les différents philosophes pour vous poser la question, que devient l'acte dans ces diverses philosophies? C'est toujours intéressant. C'est comme ça, du reste, que l'histoire de la philosophie apporte quelque chose, parce qu'elle montre la manière dont les grands problèmes ont été résolus par les différents philosophes. Eh bien, il faut comprendre que chez Platon, c'est l'ousiologie. C'est vraiment la philosophie de l'ousia. Ça, je crois que c'est ce qui caractérise Platon. Et cette philosophie de l'ousia, c'est la philosophie de la forme. C'est la philosophie de la forme en soi. Le logos, pour Platon, est coextensible à l'ousia. Et n'existe qu'au niveau de l'ousia. C'est pour ça qu'on peut vraiment dire que le platonisme, c'est l'ousiologie. Vous voyez, c'est le logos qui découvre l'ousia, et l'ousia égale la forme en soi, et l'ousia égale la forme en soi et égale l'être. Donc il faut bien saisir cette triple équation si on veut comprendre Platon, Et comme ça joue un très grand rôle, c'est important de saisir. La forme en soi égale l'ousia, égale le toan. Le toan applause. Donc le toan prie d'une façon absolue. Applause simpliciter. C'est comme ça qu'on l'a traduit. Et je crois que c'est vrai. C'est le simpliciter, applause. Donc le toan prie d'une façon absolue. Le toan prie dans toute sa pureté. Le toan prie dans toute sa pureté, c'est la forme en soi et c'est l'ousia. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acte pour Platon? C'est intéressant de se demander la question, de voir qu'est-ce que c'est, parce qu'il n'a pas refusé de parler de l'acte. Mais, au fond, l'acte sera saisi comme l'acte est fait. Comme l'acte résultat. Voyez, dans le sophiste, l'étranger propose comme définition de l'être, 247c, ce qui a une puissance. Alors, on a la dynamis. La forme en soi, elle a la dynamis. L'ousia, il a la dynamis. Et le toan, la dynamis. Donc, ça exprime, si vous voulez, la capacité de l'être pour transformer les autres. Ce qui a une puissance naturelle, quelconque, soit d'agir, le topoein, sur ce qu'on voudra d'autre, soit de subir l'action. Il y a les deux. Même la plus minime, de l'agent le plus insignifiant, dû cette puissance ne s'exercer qu'une seule fois, tout ce qui la possède est véritablement. Je définis l'être par la puissance. Vous voyez, c'est très curieux. Hein? Ce passage du sophiste est intéressant à ce point de vue-là. Et le sophiste, vous savez bien, c'est, vous voyez à peu près où ça se situe dans Platon, n'est-ce pas ? Après le Parménide, donc c'est intéressant de voir que c'est après la crise, après le bouleversement du Parménide. Et alors c'est quand même assez curieux cette phrase. Donc quand il dit ça, « Dû cette puissance ne s'exercer qu'une seule fois, tout ce qui la possède est véritablement. Car je pose comme définition qui définisse les êtres qu'il ne soit autre chose que puissance. Huc allo ti plen dunamis. 247 et. Donc, je crois que là, nous voyons bien que la dunamis va définir l'être et la dunamis va être ce qui montre la plénitude de l'être. Au fond, la perfection. Il est capable d'agir. L'être est capable d'agir. Alors, l'acte est par le fait même pris comme le point de vue d'un résultat. C'est un effet. La dynamis est plus que l'acte. Ça, je crois que c'est profondément inscrit dans la philosophie de Platon. Vous voyez, c'est en ce sens-là qu'on voit que Plotin a bien saisi le platonisme. Parce que vous retrouvez la même chose, nous le verrons. Vous retrouvez la même chose chez Plotin. La dynamis est avant l'acte. La dynamis exprime plus profondément, si vous voulez, la perfection de l'être que l'acte. Parce que l'acte est pris comme effet. Vous voyez, c'est toujours ce qu'il faut se poser la question dans Platon. Vous savez bien, quand Aristote fait la critique de Platon à propos de l'ousia, il dit... Si les réalités du monde physique étaient des œuvres d'art, la forme serait l'ousia, l'aïdos. L'idée serait ousia, serait l'ousia, ce qui est très juste. Autrement dit, en disant ça, Aristote montre que pour penser le platonisme, il faut se mettre dans une attitude d'activité artistique. Enfin, c'est ça qu'il veut nous faire comprendre. Ce qu'il y a de vrai et de profondément juste dans Platon, c'est qu'il conçoit tout comme une activité artistique. Eh bien, je crois qu'ici, nous avons quelque chose d'analogue. Voyez, Aristote ne le dit pas ici, mais je crois que nous pouvons le dire. C'est que du côté artistique, l'acte, c'est l'effet, c'est l'œuvre. Et la dunamis, c'est la capacité que j'ai de transformer la matière, si petite que soit cette capacité. Donc nous retrouvons la même chose, voyez, vis-à-vis des deux grands axes de la métaphysique, l'ousia et l'acte, nous retrouvons chez Platon cette position d'un philosophe qui est un grand philosophe de l'art, de la connaissance artistique. L'inspiration et la connaissance artistique. On peut dire que c'est ça qui domine chez Platon. Alors, vous le retrouvez du côté de l'ousia, vous le retrouvez du côté de l'art. C'est intéressant à mettre le parallèle. Aristote, face à Platon, va essayer de nous donner une nouvelle vision de l'art. Alors ici, je serai assez rapide, puisqu'il y en a pas mal qui suivent le séminaire du livre Theta, c'est pas la peine de redire. On essaiera de reprendre au livre Theta ce que au séminaire, au terme, de redonner le point de vue plénier de la chose. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'Aristote commence le livre Theta, donc c'est dans la métaphysique, le livre Theta. Il faut avoir lu le livre Theta. Hein. Absolument, c'est absolument nécessaire. Je ne vous demande pas nécessairement de le lire en grec, parce que je crois qu'il n'y en aurait pas beaucoup. Alors, ce ne serait pas la peine, mais lisez-le au moins avec une traduction qui est difficile à lire et par le fait même vous oblige de réfléchir, n'est-ce pas ? Qui est très mot à mot et qui donne des calques du grec. Alors, si on y réfléchit, on comprend, mais il faut réfléchir beaucoup pour essayer de saisir. Hein ? Tandis que si vous lisez Tricot, vous croyez comprendre et vous ne comprenez rien du tout. Alors, j'aime encore mieux que vous vous arrêtiez un tout petit peu plus longtemps pour relire une phrase difficile à lire et dire, mais oui, pour essayer de comprendre la manière dont Aristote essaie de découvrir l'être en acte. Le point de départ, c'est la dunamis. On comprend très bien. Il s'agit de montrer la grandeur de la dunamis et de montrer que la dunamis ne nous fait pas entrer dans l'être en acte. Ils sont, on dirait aujourd'hui, relativisés Platon. Il a fait la même chose pour l'ousia. Il fait la même chose pour la dunamis. Il a relativisé l'ousia de Platon en inventant le toti enaïnai. Alors ici, il va relativiser la dunamis de Platon en inventant, là encore, il y a de fait également un terme nouveau, entelekeia. Entelekeia, c'est très difficile à traduire. Ne faites pas comme Tricot, j'aime mieux que vous le disiez en grec que dire entelechi. Parce que vraiment, en français, c'est pas très beau. Alors, j'aime mieux que vous disiez en grec tout simplement entelekeia. C'est très. Il vaut mieux apprendre le mot grec et puis citer le mot grec. Parce que entelechi, ça ne veut rien dire en français. Tandis qu'au contraire, tandis qu'entelekeia veut dire quelque chose en grec. Alors, il faut respecter ce que ça veut dire. En, telos, et ekeia. Alors, voyez, si vous êtes en telekeios, dans la fin, l'ayance dans la fin. L'ayance dans la fin. Quand vous êtes dans votre fin, et que vous possédez cette fin, vous êtes dans un état de perfection. Je crois qu'entelekeia, on devrait le traduire, être dans un état de perfection. Le chat qui est auprès du feu et qui ronronne. Vous avez là le fantasme de entelekeia d'une façon parfaite. Et vous le faites ronronner. Alors à ce moment-là, vous comprenez ce que c'est qu'Entelekeia. Il est finalisé. Vous voyez, alors on voit très bien cette espèce d'attitude particulière, n'est-ce pas, de celui qui est Entelekeia. Vous n'avez qu'à lui demander. Vous verrez ce que c'est. Alors il est dans un état de perfection. L'Entelekeia, être dans un état de perfection, oui, parce que pour nous, ne voyons pas, n'est-ce pas, pour un être spirituel. Il est dans un état de perfection spirituellement, alors ça ne se voit pas. Tandis que le chat a ce privilège particulier, que ça se manifeste. Et puis c'est un animal qui, là, n'a pas de pudeur, vous voyez, il manifeste qu'il est dans un état de perfection. Enfin, il est vraiment dans un état de pleine satisfaction. Vous voyez, cette autosatisfaction de soi-même, Entelekeia. Enfin, il est parfait. Il est dans sa fin et il possède sa fin. Et alors, ceci, Aristote l'invente. Ça n'est pas dans Platon, ce n'est pas directement dans Platon. C'est intéressant de voir qu'Aristote a inventé ici un nouveau mot. Mais, je vous l'ai déjà dit, Aristote l'a inventé, Aristote s'en sert de façon beaucoup plus subtile, c'est-à-dire d'une façon beaucoup moins systématique que le Totienainain. Et c'est du reste intéressant à faire. Ce serait quelque chose d'intéressant à voir dans Aristote lui-même, toutes les fois où il emploie Entelekeia. Parce qu'à première vue, on a vraiment l'impression que cette Entelekeia est employée aussi bien que Energeia. Energeia est liée à l'heure. Vous voyez, c'est lié à notre première conception de l'acte, qui est l'œuvre artistique. Tandis que Entelekeia est lié à l'éthique. C'est pour ça que c'est lié au chat. C'est lié à l'éthique. Donc c'est lié à l'immanence de la finalité que je saisis. En saisissant ma finalité d'une façon immanente. Entelekeia, sans œuvre. Tandis que Energeia est lié à l'œuvre. C'est quand même très curieux qu'Aristote ait mis deux mots pour essayer de saisir l'état d'achèvement de l'artiste en réalisant son œuvre, alors ce n'est plus l'artiste, c'est l'acte. Et l'achèvement de celui qui est uni à la fin et qui est Entelekeia. Ça, il faut au moins réfléchir un peu là-dessus. Bon, il faut mettre donc en parallèle hein, le Entelekeia pour l'acte avec le Totienainain. Revenons au livre Theta. Je ne vais pas faire donc l'analyse complète ici. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'Aristote va essayer, à partir de la dunamis, de nous mettre en présence du possible. La dunamis va ne s'expliquer uniquement pour Aristote en face du devenir. C'est intéressant. Donc, Aristote est tout à fait d'accord que dans le devenir, la dunamis est plus que le devenir, puisque la dunamis est source du devenir. Vous voyez, comme l'eidos dans l'ordre artistique est bien l'ousia et le principe de l'œuvre, de même, dans l'ordre du devenir, la dunamis est première, elle est principe. Mais pas dans l'ordre de l'être. Et c'est pour ça que Aristote va essayer de faire surgir ce que c'est que le possible, où nous passons du devenir à l'être. C'est très net qu'au début du livre Theta, on voit comment progressivement, partant du devenir, de la dunamis, qui est dans l'ordre du devenir, Aristote va aborder le problème du possible, qui est dans l'ordre de l'être. Et une fois qu'il a abordé le problème du possible dans l'ordre de l'être, il va montrer que ce possible existe et que ce possible n'est pas premier. Si la dunamis est première dans l'ordre du devenir, la dunamis n'est pas première dans l'ordre de l'être. Et pour le montrer, il se sert du possible. Le possible fait appel directement à l'être et le possible n'est jamais premier dans l'ordre de l'être. Et alors, c'est à partir de là qu'Aristote va nous faire nous montrer comment on peut découvrir l'être en acte et l'être en puissance comme la seconde division de ce qui est vu du point de vue de l'être. Et il nous dit que c'est par une induction analogique synthétique. Vous voyez, c'est par une induction, c'est les termes d'Aristote. Hein. C'est intéressant parce qu'il ne dit pas lorsqu'il s'agit de l'ousia, tandis qu'il le dit ici. Il s'agit d'une induction, c'est par une induction. Pourquoi par une induction? L'induction nous permet de saisir les principes. Je n'ai pas d'autre moyen, dans la perspective aristotélicienne, de saisir un principe que par une induction. Parce que ce qui est propre au principe, c'est de ne pas être sensible et donc de ne pas être saisi directement. La qualité est saisie directement, un principe n'est jamais saisi directement. Une cause n'est jamais saisie directement. C'est pour ça que le positivisme ne rejette toutes les causes. Et s'il parle du principe de causalité, il parle en réalité d'un ordre qui existe entre l'antécédent et le conséquent. Mais ce n'est plus le principe de causalité, c'est la loi de causalité. Il faut bien saisir que la cause ne peut être saisie comme un au-delà du sensible. Et c'est pour ça que c'est toujours saisi par une induction. Mais comme l'acte est particulièrement difficile à saisir, Aristote nous dit qu'il faut prendre plusieurs exemples. Et c'est pour ça qu'il prend de fait plusieurs exemples pour essayer de nous permettre de dépasser l'aspect descriptif des deux états que nous constatons au niveau de la vie, que nous constatons au niveau physique, que nous constatons au niveau éthique, que nous constatons au niveau du factuel. Toutes les parties de la philosophie, on se sert de toutes ces parties pour voir que partout, on peut trouver deux états. Un état d'imperfection, un état de perfection. Et que ces deux états affectent la même réalité. Si deux états affectent la même réalité, et que de fait, je le trouve à des niveaux différents, le niveau de l'opération humaine, le niveau de la vie, le niveau physique, et même le niveau de la substance. Il faut donc comprendre que ces deux états, l'état d'imperfection ordonné à l'état de perfection, que ces deux états, si je veux les comprendre vraiment, puisqu'ils existent à des niveaux très différents, il faut les saisir au-delà de cette diversité dans l'unité de l'être. C'est ça le propre de cette induction. C'est d'essayer de comprendre que ces états de perfection et d'imperfection qui sont liés l'un à l'autre, il y a quelque chose de plus profond qui est cause de ces deux états, c'est la division de l'être en acte et de l'être en puissance. Donc il y a là tout un effort très important de nous mettre en lumière ce que c'est que l'être en acte. Et Aristote est très conscient qu'il est le premier à découvrir ça. C'est pour ça qu'Aristote est très conscient qu'il est le premier à libérer la causalité finale de la causalité formelle. Parce que c'est une libération qui se fait par la saisie de l'être en acte comparativement, de l'être en acte distinct de l'être en puissance comparativement à l'ousia. Je crois qu'Aristote reconnaît que chez Platon, la finalité est saisie, mais elle est saisie en fonction de la forme. Et donc, elle est saisie liée à l'ousia. Et la finalité n'est pas saisie pour elle-même. La découverte de l'être en acte distinct de l'être en puissance permet de saisir la fin de l'être, libérée de la forme. Quand je dis libéré de la forme, ça ne veut pas dire séparé de la forme, mais libéré de la forme, c'est-à-dire ayant sa propre intelligibilité indépendamment de la forme. C'est au fond ça, je crois, la grande découverte du livre Thétan. Une fois qu'Aristote a fait cette découverte par cette induction, Aristote montre le caractère particulier qui existe entre l'être en acte et l'être en puissance. De fait, dans notre monde, ils se tiennent tout le temps. Ils sont comme corrélatifs. Mais cependant, l'acte en lui-même est indépendant de la puissance. D'où le grand effort d'Aristote de montrer l'antériorité de l'acte sur la puissance. Bon, je n'insiste pas beaucoup parce que nous l'avons déjà vu, alors c'est pour ne pas redire indéfiniment, mais c'est quand même très important de saisir dans le livre Thétan ce que représente cette saisie de l'être en acte, qu'Aristote appelle télos. C'est la fin de l'être. Alors là, il y a un petit problème qu'on a soulevé au séminaire et qui est important de bien comprendre. Pourquoi Aristote, dans cette saisie de l'être en acte, donc energeia, parle du tiesti et du poionti, mais il parle du tiesti. Et Aristote ne dit pas en vue de quoi, étant donné qu'il avait déjà posé la question, le tiesti de l'être. Il avait dit que tiesti du toon, c'est la même chose que le tiesti de l'ousia. Lorsqu'il s'agit du livre Theta, il parle du tiesti de l'acte. Il ne dit pas le tiesti du toon. Il parle du tiesti de l'acte. Il faut chercher ce que c'est que l'acte. Alors, vous voyez comme c'est curieux. Il ne dit pas, pour nous montrer l'induction, qu'il s'agit de chercher la fin de l'être. Il le dit que comme une découverte qu'il a faite. Il ne le dit pas au stade de l'interrogation. Alors, je crois qu'il faut être attentif à ça. C'est intéressant pour nous d'essayer de comprendre cela. Parce que, vraiment, je crois que le livre Theta nous montre une recherche métaphysique. Et alors, la grande interrogation, au point de vue philosophie première, c'est le tiesti. Le tiesti du Toan, c'est le même que le tiesti de l'ousia, nous dit Aristote. Il le dit explicitement. Il le dit dans le livre Zeta. Le tiesti du Toan, c'est la même chose que le tiesti de l'ousia. Bon, nous l'avons vu, je n'y reviens pas. Mais je vous ai dit que c'était la pierre d'achoppement pour Gilson. C'est là où il n'a pas su saisir que l'ousia n'est pas la forme et que l'ousia, pour Aristote, c'est le principe de l'être, mais ce n'est pas l'être. Et donc il faut bien saisir cette interrogation du tiesti de l'ousia qui est la même que l'interrogation du tiesti du Toa. Lorsqu'il s'agit de l'acte, Aristote reprend le tiesti, parce que je crois qu'en métaphysique, c'est cette interrogation qui commande tout. C'est la première interrogation. Donc elle commande tout. Mais il dit bien le tiesti de l'acte. Le tiesti de l'acte n'est plus le tiesti de l'être. C'est très curieux. Et c'est là où je comprends comment ce tiesti de l'acte, c'est bien le tiesti de la fin. Parce qu'il dit bien, c'est le tiesti de l'acte, l'energeia. Donc c'est le tiesti de l'acte. Alors pourquoi ne dit-il pas, nous allons chercher la fin de l'être. La fin de l'être, c'est le tiesti de l'acte. Vous voyez bien, la fin de l'être, c'est le tiesti de l'acte. Alors il ne le dit pas. Sans doute parce qu'il est dans cette recherche particulière du Toon en tant qu'être et qu'il a peur que nous regardions trop vite le bien. Je crois que c'est la raison. C'est une raison historique, autrement dit. C'est parce qu'il est en face de Platon qui met au-dessus de tout la dunamis et le bien. Alors, si je pose la question, en vue de quoi l'être, je risque de regarder le bien tout de suite. Parce que la question, en vue de quoi, nous fait découvrir le bien. Or, il veut rester dans l'ordre de l'être. Et restant dans l'ordre de l'être, il veut saisir justement ce qu'est la fin de l'être. Pas la fin de l'homme, mais la fin de l'être. Vous voyez la différence entre la philosophie première et l'anthropologie. La fin de l'homme, c'est le bien. Et la fin de l'être, c'est l'acte. Et c'est, je crois, pour ça qu'il reste avec cette interrogation du TST, pour nous empêcher de regarder trop vite le bien. Vous savez, le bien peut faire un obstacle. Hein. Une anthropologie peut très bien empêcher d'entrer en métaphysique. Si je suis trop sensible à ce que représente la philosophie humaine, je risque de ne jamais découvrir la métaphysique. C'est pas commode hein, de découvrir le point de vue de la métaphysique. Et c'est pour ça, je crois, qu'il reste dans cette interrogation du TST, pour que nous ne soyons pas arrêtés par ce point de vue de la découverte du bien. Il reprendra ensuite le bien. Mais je crois que nous pouvons dire que pour Aristote, c'est net. La découverte de l'être en acte, c'est la découverte de la fin de l'être. Donc je crois qu'on peut dire, j'explicite un peu la pensée d'Aristote en disant ça, mais je crois que ça reste bien dans l'ensemble de sa philosophie. Je crois qu'on peut dire que pour lui, l'être en acte, c'est le principe ou la cause selon la fin de ce qui est. C'est pour ça que je dis bien le principe ou la fin, le principe ou la cause selon la fin de ce qui est. Et alors, ici Aristote fait quelque chose aussi très important, c'est de voir comment l'acte est antérieur, l'être en acte, est antérieur à l'être en puissance, selon l'ousia, c'est l'expression qu'il prend, et c'est intéressant de voir que c'est selon l'ousia, il se sert donc de l'ousia pour montrer l'antériorité de l'acte sur la puissance, de l'être en acte sur la puissance, pour nous faire comprendre que l'être en acte va comme envelopper l'ousia. C'est pour ça qu'il dit selon l'ousia. Et donc il y a une antériorité de l'acte sur la puissance, une antériorité de l'acte qui va plus loin que l'antériorité de la substance. Mais ce qu'on gagne en compréhension, on le perd en extension. Si l'ousia est totalement première comparativement à la qualité du point de vue de l'être, l'acte n'est pas totalement premier, l'être en acte, n'est pas totalement premier par rapport à l'être en puissance, vu du point de vue de l'être. Pourquoi ? Parce que dans l'ordre du devenir, la puissance, l'être en puissance, est antérieur à l'être en acte. Et donc il est obligé là de noter qu'il y a une certaine antériorité de l'être en puissance sur l'acte. Et là, il légitime la position de Platon. Mais c'est dans l'ordre du devenir. Dans l'ordre du devenir, il est juste de dire que la dunamis a une certaine antériorité sur l'acte, sur l'être en acte. Certaine antériorité, mais seulement dans le devenir. Et il précise, seulement dans le devenir à l'égard d'un être particulier, pas à l'égard de l'espèce. Ça, c'est le gros point très intéressant sur l'antériorité de l'être en acte sur l'être en puissance. Je n'insiste pas plus pour bien comprendre toute la grande métaphysique d'Aristote sur l'être en acte et en puissance. Il faut regarder l'application à l'égard du vrai et du bien. C'est-à-dire regarder ce qu'Aristote dit à propos du bien dans l'éthique à Nicomaque et regarder ce qu'Aristote dit à l'égard du vrai dans le De Anima. Et ce que Aristote nous dit également dans le livre Lambda. Ce sont les grands lieux où on peut saisir ce qu'est cette métaphysique de l'être en acte. Dans le livre Lambda, vous comprenez, c'est la grande application à l'égard de l'être premier. Et c'est là où on voit bien que pour Aristote, l'être immobile, c'est l'acte pur. C'est très net. Pour qui veut lire le livre Lambda ? Et c'est une perfection, c'est là on voit très bien le dépassement de la philosophie première par rapport à la physique. La physique ne peut atteindre l'être premier que négativement. Tandis que la philosophie première peut atteindre l'être premier analogiquement, mais positivement. C'est ça qu'il faut saisir. Il y a donc une saisie positive, mais analogique, d'affirmer que l'être premier est acte pur. Il est acte pur, il est la pensée de la pensée. Et donc c'est là où on retrouve toute l'éthique et la finalité dans l'ordre de la finalité de l'être de Dieu. Lorsqu'il s'est, après Aristote, tout de suite, cette métaphysique de l'acte a été perdue. C'est extraordinaire. Tant chez les stoïciens que chez Plotin. Plotin est revenu à Platon. Mais Plotin a développé beaucoup plus la philosophie de l'acte que Platon. Et il y a chez Plotin toute une philosophie de l'énergeia qu'on retrouvera en théologie chez les orthodoxes. C'est l'aspect de Plotin, de l'énergeia, qui chez Plotin joue un rôle très important, qu'il faut saisir chez Plotin l'énergeia. Qu'est-ce que c'est l'acte? C'est le passage de l'être supérieur à l'être inférieur. Le passage de l'un, par exemple, au nous, s'explique par l'énergeia. Donc le passage de l'un au nous s'explique par l'énergeia. Le nous est relié à l'un par l'énergeia. L'énergeia n'est pas l'un, mais l'énergeia est ce qui explique la procession de l'un sur le nous. Et nous retrouvons la même chose du nous à l'âme. Donc les processions s'expliquent, les processions de l'un par rapport au nous et du nous par rapport à l'âme s'expliquent par l'énergeia. C'est très très curieux. Et c'est très propre à Plotin, ça. Ces processions sont énergeia et elles sont images, icônes. Vous voyez l'importance de l'icône qui est mise avec l'énergeia. C'est très très curieux. L'icône fait le passage de l'être inférieur à l'être supérieur. Le nous est icône de l'un. Et le nous est énergeia de l'un. Dans la mesure même où il est relié à l'un. Alors c'est très curieux de mettre en parallèle ces deux aspects de Plotin, l'aspect de l'icône, l'aspect de l'image, et l'aspect de l'énergeia. L'aspect de l'icône, c'est du côté de la cause formelle, du côté de la cause exemplaire, et la cause formelle, tandis que l'énergeia, c'est du côté de la procession elle-même. Et la procession elle-même, donc le nous, est finalisé par l'un, vous voyez, d'une certaine manière. Mais la dynamis égale l'un égale le bien. C'est les trois aspects. Dans la première hypostase, il y a l'un, le bien et la dynamis. Donc la dynamis est au-delà de l'énergeia. Chez Plotin, c'est net. La dynamis est au-delà de l'énergeia. Et la dynamis est au niveau de l'icône. L'icône, c'est donc la forme. Forme et énergeia vont ensemble, sont très très proches l'un de l'autre. De fait, après cette philosophie de Plotin, il faut regarder ce que les théologiens ont utilisé de cette métaphysique de l'acte et de la puissance. Alors là, il y a une grande étude qu'il faut faire dans Saint Thomas, je ne la ferai pas. Mais c'est intéressant à voir.